Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui nous allons parler d'un événement de médiation scientifique. Nous allons parler de Détour des sciences, le risque et les sciences, un événement proposé par l'Université de Tours. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Alice Nuet. Bonjour.
Bonjour.
Alice Nuet, vous êtes responsable du pôle SAPS de l'Université de Tours, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Et il y a également notre doctorant en droit qui n'est autre que...
Simon Huitain.
Simon Huitain, bonjour. Bonjour. Donc vous avez proposé une thèse, vous êtes lié au laboratoire IRGI, je crois.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors le titre de votre thèse?
Les risques sanitaires liés à l'exposition aux substances nocives à l'épreuve du droit.
Voilà, donc vous proposez aussi une communication dans le cadre de ces détours de sciences. Voilà, on aura le temps d'en parler un peu plus tard et que nos éditeurs se rassurent. Voilà, vous n'allez pas spoiler ni votre thèse ni cette intervention. Vous allez leur proposer un autre contenu tout à fait exclusif pour Radio Campus Tours. Mais d'abord, je me tourne vers Alice Nuet. Est-ce que vous voulez nous présenter cet événement qui se tiendra donc vendredi 25 avril de 9h à 16h à l'Université de Tours?
Oui, donc Détour des sciences, c'est un événement qui a lieu chaque année à l'Université de Tours, qui est organisé donc, par l'Université, par le pôle SAPS, donc, que je gère, Sciences avec et pour la société. C'est une journée et une soirée de conférences, débats, chaque année autour d'une thématique différente. Et donc cette année, pour la 5e édition, le thème qui a été choisi est le risque entre menaces et moteurs de survie. Donc la journée, on va accueillir à l'Université de Tours des publics scolaires, exceptionnellement uniquement scolaires. Et en soirée, on sort de l'Université de Tours et on va au CGR pour une soirée dédiée au risque en laboratoire, au Covid, dont je pourrais parler un peu plus largement. Et donc là, c'est ouvert à tous les publics et c'est gratuit, sans inscription. Et donc au CGR, situé derrière la gare.
Et alors, une première partie de journée avec des conférences, des petites conférences sur la santé, donc sur les risques dans la recherche. Et vous l'avez dit, dédié, en tout cas réservé au public scolaire. Alors pourquoi ce public-là?
Alors chaque année, c'est un public qui est privilégié. C'est un événement qui est soutenu par la région Centre-Val de Loire, la métropole et le rectorat. Et on travaille donc de très près avec le rectorat pour faire venir des classes de toute la région, et spécifiquement des classes qui sont éloignées du monde académique. C'est un de nos publics cibles qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir visiter les universités et donc de rencontrer des chercheurs. Donc là, cette année, pourquoi uniquement des scolaires? Ça, c'est vraiment pour des raisons logistiques, c'est que le site Télème est en travaux et donc nous n'avons pas pu bénéficier de la belle salle Télème. Donc on est sur un site plus petit, mais sur le site du Plat d'Étain. Mais ce qui nous permet de proposer un format un petit peu différent où on va proposer sur la pause méridienne des animations de médiation scientifique aux élèves en plus petits groupes, ce qu'on ne peut pas faire habituellement puisqu'on est donc à TLM et qu'on accueille aussi bien le grand public que les publics scolaires.
Alors cette journée de conférence, comment elle s'est constituée? Parce qu'il y a plein d'intervenants, il y a plein de thématiques. Comment vous avez construit ce programme, sachant que c'est pour des scolaires?
Alors, chaque année, un comité de scientifiques se réunit bien en amont. Hein, là, on est en train de discuter de l'an prochain, pour choisir un thème. Alors, les conditions, c'est que ça soit un thème avec des enjeux sociétaux, un thème qui permette de convoquer aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences et techniques, le droit, toutes les disciplines qui sont représentées dans les laboratoires de l'Université de Tours. Et donc là, le thème des risques a été choisi et soumis en amont au rectorat. Donc on discute beaucoup avec plusieurs personnes au rectorat, donc notamment la correspondante académique sciences et techniques, qui peut nous dire sur quel public, plutôt lycée, plutôt collège, en fonction des programmes. Et donc là, avec la thématique One Health, la thématique environnement, ça nous semblait approprié pour notamment les publics lycéens. Donc là, cette année, on aura exclusivement des lycéens et des lycéennes. Parfois, on a aussi des collégiens, mais cette année, il n'y aura que des lycéens et lycéennes du lycée d'Argenton-sur-Creuse. Donc là, on est très contents qu'ils viennent de très loin. Orléans, Amboise et Chinon.
Alors la venue de ces jeunes est financée comment? Parce qu'on sait qu'il y a quelques problèmes avec le pass culture.
Tout à fait. Alors, il est financé en partie par l'Université de Tours, par le biais d'un programme, d'un label Science avec et pour la société qu'on a obtenu du ministère, qui nous permet de mettre en place des actions à destination des publics dits éloignés du monde académique, et avec le soutien du rectorat également. Et grâce à l'aide, comme je disais, de la région et de la métropole également, qui nous subventionne cet événement, qui nous permet de faire venir... quasiment gratuitement pour les établissements scolaires, pour toute la journée. Et le midi, on les nourrit également.
Oui, c'est important de manger le midi quand même, je suis pour. Et allez, même si on ne peut pas assister à ces conférences, est-ce que vous voudriez nous en dire plus sur ce programme?
Oui, alors il a été composé en deux temps. La matinée, elle est dédiée aux risques climat et environnement. Donc il y a avec Simon qui interviendra, qui clôturera la matinée, donc je laisserai parler plus largement de sa thématique. Mais la journée, elle va être ouverte par une chercheuse en aménagement du territoire qui est spécialiste notamment des risques d'inondation et qui parlera plus globalement des risques liés au climat, aux sécheresses et inondations. Son intervention sera suivie de trois courts-métrages qui ont été réalisés par des étudiants de Polytech autour de la thématique des inondations également. Ensuite, on aura les lycéens interviendront à leur tour, pour toujours dans cet esprit de dialogue entre recherche et société. L'idée était de donner aussi la parole aux lycéens et lycéennes qui puissent présenter leurs projets qu'ils ont montés dans leur classe en amont et ensuite recevoir les questions des scientifiques à leur tour. Donc là, je le disais, la matinée sera conclue par Simon, qui interviendra sur le volet juridique. Et l'après-midi, elle est dédiée à la thématique du risque et santé, et notamment autour des virus. Une première intervention sera dédiée à l'histoire des épidémies, un petit panorama historique d'épidémies qui ont été qui ont sillonné l'histoire. On a ensuite deux personnes qui travaillent dans des laboratoires et qui sont notamment en charge de la sécurité dans les laboratoires et qui sont en charge de maîtriser cette notion de risque, qui viendront faire une intervention un peu interactive dans le sens où ils vont présenter tout ce qui est équipement de protection qui sont mis en place, mais aussi avec des images de à quoi ressemble un laboratoire, des laboratoires qui sont classés 2, 3, c'est un peu technique et je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais en gros selon le niveau de dangerosité des virus manipulés, il y a des protocoles de sécurité qui sont mis en place, plus ou moins importants, et donc ils viendront présenter cet aspect. Et ensuite, la journée sera conclue par un format table ronde. Alors c'est un format auquel on tient, parce que qui est peu connu des lycéens et lycéennes, et donc on en propose toujours au moins une. Et l'idée, c'est de faire dialoguer plusieurs thématiques. Donc là, l'antibiorésistance, avec la chercheuse Émilie Camiade, qui viendra parler de cette thématique, la thématique One Health, qui sera aussi abordée par Simon dans la matinée, et encore un duo chercheur et une personne qui est spécialiste de la sécurité dans les laboratoires, donc Eric Pivert et David Savy, qui viendront parler des risques de recherche en virologie. Et c'est ce thème aussi qui sera repris plus largement dans la soirée, avec la professeure Christine Rousiou, donc qui vient de l'hôpital Necker et qui parlera plus largement du Covid. Et donc c'est une virologue qui a été dans l'équipe, qui a découvert le virus HIV et qui s'est spécialisée sur la transmission de la mère à l'enfant et qui viendra là nous parler plus largement des risques de manipulation de virus en laboratoire, des fuites de laboratoire, de Covid, etc.
Et donc ça pour cette séance de cinéma, conférence-débat, est-ce qu'il faut réserver une place? Est-ce qu'on peut réserver sa place en ligne?
Alors il n'y a pas de réservation, ça sera dans la limite des places disponibles, donc ce qu'on conseille c'est d'arriver à l'heure, mais la salle est grande et donc ça sera une conférence professeure, Christine Rousiou, qui sera suivie d'un échange avec la salle et notamment avec le président de l'université qui est lui-même virologue, donc Philippe Rongeard, qui sera présent et qui pourront discuter autour de cette thématique puis répondre aux questions du public.
Donc là, on voit qu'il y a, comment dire, les chercheurs et chercheuses de l'Université de Tours sont mis à l'honneur dans votre programmation. On voit des personnes d'INRAE, de l'INSERM, vraiment de diverses équipes de l'Université de Tours. Et ça, j'imagine que c'est une volonté aussi de mettre, de l'IRJ bien sûr, que c'est une volonté de mettre à l'honneur vos chercheurs.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas toujours le, enfin, c'est toujours le cas, mais il y a aussi parfois sur des thématiques des chercheurs qu'on peut solliciter d'autres universités. L'an dernier, c'était le cas. Cette année, un peu moins. On a l'événement, il est soutenu aussi par un programme qui s'appelle Loire-Valels, qui est donc sur 8 ans, qui est dédié donc à la thématique de la santé avec des thématiques bien précises. Et donc, c'est dans cette programmation dans leur axe science avec et pour la société aussi que l'événement se déroule et avec leur soutien. Et donc, on a fait appel à des chercheurs qui sont impliqués dans ce projet pour venir parler de thématiques où, à l'Université de Tours, on a là beaucoup de chercheurs qui sont impliqués. Donc, c'était l'occasion de leur proposer de venir parler de leur recherche. Donc voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas, tous les ans. Oui.
Est-ce qu'on peut spoiler le thème de l'année prochaine ?
Alors, on ne l'a pas encore. Ah, j'aurais rêvé de pouvoir l'annoncer en avant-première. On a une date, c'est le 27 mars.
27 mars.
À Télème, voilà. Mais par contre, on n'a pas encore de thème. Mais ça sera probablement encore en lien avec la santé, mais toujours dans un spectre large qui inclut sciences humaines et sociales aussi.
Eh bien oui, vive l'interdisciplinarité. Et alors peut-être, au-delà de cet événement des Tours de Loire, rappelons-le, qui se tient le 25 avril et qui est réservé cette année en journée aux scolaires, plus la soirée au Détour de Loire, peut-être Alice Nuet, vous voulez nous en dire plus sur les actions de ce pôle SAPS ?
Alors oui, c'est des Tours des Sciences, hein, pas des Tours de Loire.
Oui, des Tours des Sciences, excusez-moi, je me voyais déjà à vélo. Pardon.
Oui, non, mais oui, pourquoi, venez à vélo, aucun problème. Et donc oui, le pôle SAPS, c'est un pôle qui a été créé récemment, il y a 3 ans maintenant, à force de le dire, c'est plus si récent, mais... pour mettre en place des actions sciences avec et pour la société, donc ça inclut... Tout ce qui encourage le dialogue entre recherche et société. Donc c'est suite à une loi, la loi en 2021 de programmation de la recherche, qui, entre autres, préconisait de mettre en place dans les universités, au sein même, enfin, à l'endroit même où la recherche est produite, des actions, des services pour encourager le dialogue entre recherche et société. Alors, les chercheurs ont toujours fait ce qu'on maintenant on appelle des SAPS, hein, ils ont toujours dialogué avec la société, ils ont toujours travaillé avec des enjeux de société, ils ont toujours restitué leurs résultats auprès du grand public. Mais là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre en place des formations pour les accompagner, pour pouvoir cibler plusieurs types de publics. On crée aussi des événements pour provoquer la rencontre. Et on fait venir aussi des publics qui sont dits éloignés, comme je le disais, à l'université. Donc, par exemple, on accompagne des dispositifs qui sont mis en place par la région et le rectorat. Encore une fois, on travaille beaucoup avec eux, qui s'appelle Sciences pour toutes et tous, où on fait venir des classes de 3e, qui, dans le cadre de leur stage de 3e, viennent découvrir les laboratoires de l'université de Tours et de l'INRAE à Nouzy, sur une semaine. Donc, on leur organise tout un parcours pour découvrir à la fois les sciences humaines, les sciences et techniques, les sciences médicales, enfin, un parcours un peu représentatif. On a aussi des dispositifs, par exemple, de ma thèse en BD, où on lance un appel auprès de tous les doctorants pour qu'ils nous envoient un texte vulgarisé de leur thèse. Et ensuite, on en sélectionne 6 et on les met en lien avec des dessinateurs et dessinatrices de bandes dessinées pour, à la fin, obtenir 6 planches BD, donc une planche, une thèse en BD. Voilà, donc on a plusieurs dispositifs comme ça. On a aussi ma thèse en 180 secondes qu'on accompagne chaque année. Et tous ces dispositifs visent à permettre au grand public de découvrir la recherche au plus près. Et là, on est aussi en train de développer un dispositif de recherche participative, donc ce qu'on appelle une boutique des sciences, qui s'appellera la passerelle des savoirs, et qui va très bientôt être mise en place d'ici la fin de l'année universitaire, et qui vise à encourager les recherches participatives, donc des recherches co-construites entre chercheurs, donc académiques et non académiques, donc des citoyens, des associations, des collectivités. Donc là encore, il y a déjà des chercheurs qui font des recherches participatives à l'Université de Tours et ailleurs. Là, c'est un dispositif, encore une fois, pour accompagner ceux qui ne le font pas encore, ceux qui seraient intéressés, et pour accueillir les demandes qui viennent de la société, et des sujets qui intéresseraient des collectifs et donc pour lesquels on pourrait solliciter des chercheurs.
Et ces thèses en BD, où est-ce qu'on peut les voir ?
Alors les thèses en BD, on a donc deux expositions qui circulent, une à l'université en général et une en dehors de l'université. Donc là, on est sur un entre-deux, puisque on attend avec grande impatience les toutes nouvelles planches qui vont arriver d'un jour à l'autre. On a les premières, mais elles ne sont pas toutes arrivées. Et donc, elles seront visibles pour la première fois à l'occasion de Détour des sciences. Et ensuite, on organise toujours une petite programmation donc dans les bibliothèques municipales, dans les bibliothèques universitaires, là, probablement au Muséum d'Orléans. Dans tous les cas, elles sont visibles en ligne, elles sont accessibles gratuitement sur notre site, donc saps.unif-tour.fr, où là vous retrouvez tous les dispositifs qu'on met en place et entre autres donc le ma thèse en BD. Donc là on peut télécharger librement les BD pour pouvoir les lire et les imprimer pour les lire tranquillement chez soi.
Et donc dans cette passerelle des sciences, est-ce que c'est là que vous allez pouvoir créer des liens aussi avec les, disons, le tissu associatif local ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est l'idée, c'est ça. Il va y avoir plusieurs appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets pour financer avec des petites sommes, des bourses d'amorçage, enfin, disons des dotations d'amorçage pour initier la collaboration, la co-construction de savoir entre, par exemple, une association, effectivement, une collectivité, des citoyens, des habitants, et un collectif de chercheurs ou un chercheur, une chercheuse. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble sur une période grâce à cette bourse d'émergence, des dotations d'émergence, et ensuite pouvoir prétendre au schéma plus classique de dépôt de projets de recherche que les chercheurs connaissent bien, mais qui est, quand on initie une co-construction vraiment de recherche, peut nécessiter un temps un peu plus long de discussion, de premiers résultats de recherche à initier pour pouvoir produire donc une problématique de recherche solide qui permette d'obtenir un financement plus long.
Est-ce que ça pourrait financer une thèse, par exemple ?
Une thèse de non, enfin à terme, si, en fait, on a déjà eu ce genre de cas, ça peut être une demande qui vient de l'extérieur, qui peut commencer par un stage, par exemple, et qui pourrait ensuite déboucher sur une demande de bourse de thèse qui serait financée. Ça, on a déjà vu ça à l'université, hein, de collectif de designeuses qui avaient sollicité un laboratoire parce qu'elles cherchaient une solution pour développer de la colle avec des matériaux de recyclage. Et donc, il y a sollicité le laboratoire Simba, donc une stagiaire de master, a cherché un peu des solutions et a trouvé une piste sur le byssus de moule. C'est l'occasion d'une thèse en BD, hein, donc il s'agit de Caroline Lopez Ferreira Simba qui a initié cette thèse. Et cette demande a abouti à une bourse d'établissement de l'Université de Tours, une bourse de thèse qui a été financée sur un projet un peu art science et qui est actuellement en cours. Elle n'a pas encore soutenu, mais elle sera une des candidates à ma thèse en 180 secondes. Donc voilà, tout se recoupe.
Merci Alice Nuet. Alors on va faire une première pause musicale dans cette méridienne où il est question de Détour des sciences et pas de Loire, hein, je le redis, pardon. Vendredi 25 avril, voilà, l'événement se tiendra là. On peut le retrouver en ligne sur le site detourdessciencesuniftour.fr. On vous invite aussi à aller voir le site du Pôle SAPS et nous allons écouter votre choix musical. Alors quel est-il ?
Il est imprononçable, donc je vous laisse l'écouter.
Ah, et ben, allons-y alors. Tendez l'oreille et vous identifierez peut-être de quoi il s'agit. À défaut, je le mettrai par écrit dans le podcast de cette émission. À tout de suite. Render me not to Nous sommes de retour dans cette émission La Méridienne et nous parlons toujours de cet événement des tours des sciences proposé par le pôle SAPS de l'Université de Tours. Et vous venez d'écouter, auditeurs, auditrices, alors attention, est-ce que la technologie est avec moi ?
Choir Prayer by Glasser.
Voilà, c'était ce titre que vous venez d'écouter sur nos ondes. Merci à notre ami, bon, je le cite, Google Translate. Voilà, donc vous en savez plus sur ce que vous venez d'écouter. Donc, sans transition, nous allons donner la parole à notre doctorant Simon Hutin. Donc, une thèse dans le laboratoire IRGI et vous proposerez donc une intervention dans l'événement dont vient de nous parler Alice Nuet. Alors, peut-être, avant de vous lancer sur la réglementation des substances nocives, vous voudriez revenir sur quelques définitions. Alors, par exemple, la santé environnementale, de quoi on parle exactement ?
Alors, ce qu'il faut entendre par santé environnementale, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui retient en tout cas cette définition. C'est véritablement tous les aspects de la santé humaine, y compris ce qu'on considère comme la qualité de vie, qui peuvent être déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux. Donc, en fait, ça vise véritablement une appréhension globale de ce qu'est la santé et des interactions que finalement l'environnement peut avoir avec la santé humaine. Donc l'idée, c'est d'avoir l'approche la plus globale possible. Traditionnellement, on retient le plus souvent les risques chimiques qui peuvent du coup avoir un certain nombre de conséquences sur la santé humaine, mais il y a aussi des choses telles que le bruit ou encore toute la consommation quotidienne qui rentrent en ligne de compte.
Et alors, quand on parle de One Health, de quoi il est question ?
Alors, One Health, c'est un concept qui a été mis au devant de la scène internationale, qui se résume comme une seule santé en français. L'idée, c'est tout simplement de considérer que la santé animale, la santé des écosystèmes et puis la santé humaine, en réalité, sont intimement liées. Et lorsqu'on porte atteinte à l'une d'entre elles, en réalité, les deux autres en sont également atteintes.
Voilà, tout est question d'équilibre alors ?
Oui, complètement. Un équilibre dont on a besoin et qu'on peine à trouver aujourd'hui.
Et allez, un petit dernier, exposome.
Alors l'exposome, c'est un concept qui a été inventé en 2005 par Christopher Weil, qui est un des anciens directeurs du Centre international de recherche sur le cancer, et qui vise à étudier l'impact des expositions environnementales du stade fœtal jusqu'à la mort, finalement, qui pourrait porter atteinte à la santé humaine. Et c'est un concept qui se veut finalement en parallèle du concept de génome, puisque pendant des décennies, on a pensé que la génétique humaine pouvait finalement expliquer l'entièreté des pathologies que l'humain pouvait développer au cours de sa vie. Et en réalité, on s'est aperçu que les expositions environnementales en étaient aussi responsables.
Simon Hutin, donc vous êtes doctorant en droit. Votre conférence portera sur les risques sanitaires et environnementaux, de leur évaluation à leur gestion. Alors pour cette émission, j'aimerais vous demander que dit le droit français en 2025 à propos des substances nocives. Comment est-ce qu'elles sont caractérisées dans le droit français ?
Alors, elles sont caractérisées de multiples façons. On parlait tout à l'heure du concept d'exposome. Il a été introduit en 2016 par une loi de modernisation du système de santé. Aujourd'hui, le code de santé publique prévoit que les politiques de santé publique doivent poursuivre ce concept d'exposome, donc avoir cette approche la plus large possible de la santé humaine et donc ne pas se contenter d'étudier l'impact, le risque pour représenter une substance à la fois prise isolément, mais en réalité s'intéresser à toutes les interactions que ces substances pourraient avoir, sachant qu'un être humain est à peu près exposé, on estime en tout cas qu'il est exposé à plusieurs milliers de substances chimiques chaque jour. Donc on voit à quel point finalement l'enjeu de saisir ces substances est important. Il le saisit de multiples façons. On le voit notamment par le développement de beaucoup de plans, plans chlordécone, plans pesticides, plans radon, donc énormément de plans qui visent à la fois à prévenir et aussi à gérer le risque quand, mine de rien, il survient.
Alors, est-ce qu'on trouve quelque part, nommément, ces substances-là, radon, chlordécone, est-ce qu'elles sont mentionnées telles quelles, quelque part, dans le droit français ? Est-ce qu'il y a des listes de substances classées comme polluants ?
Oui, il y a évidemment des mentions extrêmement précises. Vous en avez dans le Code de santé publique qui parle expressément, par exemple, du tabac, de certains médicaments qui sont nommément désignés, tels que le Mediator, la Dépakine, le Distibène. Finalement, des médicaments qui ont eu quand même un certain écho dans les médias, dans le monde politique, au vu du scandale sanitaire qui en a pu résulter. Et puis, on a aussi dans le code de l'environnement tous les polluants atmosphériques qui viennent altérer la santé humaine, mais aussi l'eau, les sols qui sont concernés. Et puis, on a aussi des substances telles que l'amiante qui est extrêmement connue, qu'on retrouve dans le code du travail. Donc, le droit cherche en tout cas à saisir ces substances et à les encadrer de la façon la plus équilibrée possible, du moins.
Donc ça, c'est les trois codes principaux où on trouve ces substances, le code du travail, de l'environnement et de la santé ?
Je dirais que c'est les trois codes qui visent le plus à garantir cette santé environnementale. Il y en a d'autres. En réalité, on a cinq ministères qui sont à la manœuvre concernant ces thématiques. On a le ministère de l'environnement, le ministère de la santé, on a le ministère du travail, le ministère aussi de l'enseignement du supérieur, puisqu'il chapeaute finalement toute la recherche autour de ces substances. Et puis on a le ministère évidemment de l'Agriculture qui cherche à encadrer le risque agroalimentaire et finalement ce risque que peuvent représenter ces produits de consommation quotidien.
Et alors comment le droit français peut-il intégrer des nouvelles substances nocives ? Parce que vous venez de nous expliquer qu'il y en a certaines qui sont déjà indiquées, ciblées et catégorisées, mais disons que l'humain est inventif, donc on peut penser qu'il y en aura de nouvelles. Donc comment ça se passe ?
C'est tout l'enjeu de ces dernières années, c'est de voir finalement qu'on a tendance à catégoriser, à compartimenter les substances, à chercher à les appréhender isolément, alors même que, on l'a vu tout à l'heure, le concept One Health, le concept d'exposome vise une appréhension globale des choses parce qu'on se rend compte qu'il est impossible d'encadrer des milliers de substances comme on cherche à le faire aujourd'hui. Malheureusement, on reste dans cette logique aujourd'hui parce qu'on ne sait pas faire autrement. On tend à développer de différents outils qui visent une appréhension plus globale et puis on développe aussi des dispositifs juridiques qui permettent d'encadrer des familles de substances plutôt que des substances très précises. On a eu notamment dans l'actualité la réglementation concernant les PFAS, qui sont donc des polluants éternels qui causent des dommages aussi à la santé humaine. Faut se dire qu'on a le droit français nous a doté quand même d'un certain nombre d'agences sanitaires qui visent finalement à avoir ce rôle de veille, de surveillance, de vigilance pour alerter le législateur lorsque telle ou telle substance semble présenter un certain nombre de risques. Et une fois que l'alerte est donnée, c'est là où on rentre dans un processus d'évaluation du risque qui peut prendre du temps. À l'issue de cette évaluation, en fonction des résultats obtenus, on arrive à un dispositif de gestion normalement.
Et c'est à partir de combien de victimes alors qu'une substance est jugée préoccupante ?
Je ne sais pas si on peut parler de nombre de victimes. Ce qui est sûr, c'est que y a des temps extrêmement longs qui peuvent être expliqués de multiples façons. Alors, en premier lieu, les limites de l'évaluation elle-même, puisque c'est ce que je disais, à partir du moment où la logique principale, la logique dominante, c'est de réglementer chaque substance prise isolément, on part sur des études extrêmement longues et on néglige d'autres substances qui pourraient être composées de façon à peu près similaire. Ce qui est sûr, c'est que il y a aussi une tendance aussi à ralentir l'action des pouvoirs publics qui peut aussi expliquer ce temps extrêmement long, ce temps de latence extrêmement long entre l'alerte qui a été donnée et les premiers dispositifs. On l'a vu avec la cigarette où il a fallu plusieurs décennies avant d'avoir véritablement une prise de position des pouvoirs publics. On l'a vu aussi avec l'amiante. Donc je ne sais pas si on peut parler véritablement de nombre de victimes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus le nombre de victimes, ou du moins plus le risque sanitaire a des conséquences importantes, plus les pouvoirs publics se voient mis sous pression pour développer les dispositifs adéquats.
Et si on se tourne du côté des employeurs et des industriels, est-ce que le droit français prévoit quelque chose de particulier en matière de prévention du risque d'exposition aux pollutions environnementales ? Est-ce qu'il leur interdit d'utiliser telle substance, d'exposer leurs salariés à telle substance ?
Oui. Il faut bien se dire que l'objectif du droit, c'est de garantir quand même une certaine sécurité, notamment des travailleurs en ce qui concerne le code du travail. Donc il est évident que lorsqu'on finit un processus d'évaluation et qu'on aboutit à un risque pour la santé concernant telle substance, il y a des mesures qui vont être prises cherchant à soit restreindre, soit interdire l'utilisation d'une substance dans un contexte donné. On a par exemple ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition professionnelle, les VLEP en droit du travail, qui imposent des doses maximum d'exposition quotidienne pour les travailleurs. On a aussi des matériels de sécurité qui sont imposés concernant la manipulation de substances chimiques qui peuvent être à risque. Donc le droit prévoit quand même un certain nombre de choses pour garantir la sécurité des travailleurs. Et puis après, concernant les industriels, il est évident qu'ils doivent s'astreindre au régime qui a été fixé concernant les substances à l'issue du processus d'évaluation. Si la substance est considérée comme trop à risque, elle se verra interdite et ne pourra plus être utilisée. Et ce sera tout l'enjeu économique auquel devront faire face les fabricants de trouver des alternatives.
Voilà, et on comprend tout de suite. Certains conflits peuvent venir de ces restrictions. Et alors, si on considère le droit européen, en fait, en la matière, comment il s'applique en France ? Est-ce qu'il y a un millefeuille de réglementation ? Comment elles s'harmonisent les unes avec les autres ? Est-ce qu'il y a un droit qui prime l'un sur l'autre ?
On peut parler, je pense, de millefeuille concernant la santé environnementale, concernant le droit de l'environnement d'ailleurs dans sa globalité, tout simplement parce que encore une fois, on compartimente énormément la réglementation de certaines substances, ce qui fait qu'on aboutit à des dispositifs quand même assez hétérogènes, ne serait-ce que, par exemple, en matière de pesticides, l'exposition à des pesticides concernant un riverain, un agriculteur ou un individu qui consommerait tel ou tel fruit qui aurait été aspergé lors de sa production ne sont pas considérés de la même façon par le droit français. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement compartimenté qui rend plus difficile la lecture du dispositif global. Concernant l'UE, donc l'Union européenne, elle est dotée de ses propres agences qui sont chargées d'évaluer et de réglementer la commercialisation sur le marché européen des substances à risque, des substances chimiques. Il faut bien se dire que nos agences sanitaires nationales participent en réalité à l'évaluation à l'échelle européenne. Donc il n'est pas question d'un droit qui prime sur l'autre, mais la plupart du temps, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation française est en accord avec l'Agence européenne, tout simplement parce qu'ils ont participé à la même évaluation. Par contre, il arrive qu'il y ait des divergences d'opinion concernant telle ou telle substance. Et alors là, autant quand une substance n'est pas approuvée à l'échelle européenne, le droit français n'autorise pas, ne peut pas s'autoriser, du moins à autoriser la substance sur le sol national. Autant à l'inverse, si une substance est autorisée à l'échelle européenne, le droit français peut, par le biais d'une évaluation interne qui montrerait la défectuosité, la dangerosité de telle substance, pourrait prendre des mesures plus restrictives dans le but de garantir la sécurité de sa population.
Il y a un exemple de substance où le droit français, le législateur français a décidé d'interdire une substance qui pourtant est autorisée en UE.
Oui, on a un exemple flagrant qui est celui du bisphénol A, donc qui est un composé qui se retrouvait énormément dans les plastiques, qui pendant des années a été considéré comme non nocif. En 2011, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation française qui lance l'alerte en considérant par une revue qu'elle a faite de la littérature scientifique, donc de l'ensemble des résultats qui lui étaient proposés. Elle a abouti à la conclusion qu'il y avait un vrai risque pour la santé et elle a lancé cette alerte contre l'avis de l'agence européenne. Il faudra en réalité 10 ans pour que l'agence européenne rejoigne l'avis français. Et heureusement, la France n'a pas attendu pour agir et elle a, par le biais d'un certain nombre de dispositifs, d'abord cherché à éliminer cette exposition des biberons pour bébés avant de l'étendre à l'ensemble des contenants alimentaires. Et puis plus tard, un certain nombre d'autres choses telles que les jouets pour enfants. Donc on voit ici typiquement qu'on peut avoir des divergences qui tendent à s'installer sur le long terme et qu'il y a ce besoin parfois d'être plus restrictif à l'échelle interne.
Mais par contre, on peut, contourner ces restrictions si on fait des achats par Internet, par exemple sur certaines plateformes situées en Chine. Si le consommateur achète des choses par ce biais-là, évidemment, c'est hors des réglementations européennes.
Alors, par principe, la réglementation vise à la fois la production, mais aussi l'importation de ces produits à risque. Donc normalement, on est censé avoir un encadrement optimal en la matière. Bon, il est évident qu'il y a des failles, qu'on aboutit à des vrais risques pour la santé. Ça a été le cas notamment de certains pesticides qui sont interdits de production et d'importation sur le sol français et qui, par le biais du fait qu'on importe des produits de consommation qui ont été aspergés par ce type de produit, en réalité, on réintroduit le risque d'exposition à ces pesticides qui pourtant sont interdits.
Eh bien, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale dans cette méridienne. Ce sera votre choix, Simon Hutin. Que va-t-on écouter ?
Alors, on va écouter Earth Song de Michael Jackson, tout simplement pour faire un petit lien avec ce besoin de prendre en considération ce concept One Health, une seule santé. La santé des animaux, des écosystèmes et la santé humaine sont intimement liés.
Voilà, donc restez avec nous. Après, on parlera de glyphosate.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice?
is crying, earth is weeping, sure.
C'était Michael Jackson sur la Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne. Alors, il était question de santé environnementale et de droit avec Simon Hutin, donc, qui est doctorant au laboratoire IRGI. Alors, peut-être qu'on peut maintenant s'intéresser aux enjeux politico-institutionnels. Et je crois, Simon, que vous vouliez revenir sur les Monsanto Papers. Alors, peut-être nous rappeler de quoi il s'agit.
Oui, alors, sur l'affaire des Monsanto Papers, il faut revenir à l'origine. Donc, ça porte sur une substance active qui est sûrement la substance active la plus utilisée dans le monde, dans le secteur des produits phytosanitaires, qui est le glyphosate. Il faut se dire que Monsanto avait fait en sorte de bâtir sa réputation sur ce produit, qui a fait toute sa renommée, comme le produit qui est le plus inoffensif finalement pour la santé humaine et qui ne vise qu'à lutter contre les herbes folles, quoi. On a assisté au début d'une certaine controverse avec l'évaluation qu'a pu en faire le Centre international de recherche contre le cancer, qui a classé le glyphosate en 2015 comme probablement cancérogène. Et très paradoxalement, on a vu les agences du monde entier, notamment françaises, européennes, américaines, aller dans le sens inverse pendant les années qui ont suivi. Donc de 2015 à 2018, elles ont toutes revu leurs copies, toutes réalisé de nouvelles évaluations et sont allées à l'opposé du Centre international de recherche contre le cancer, ce qui a suscité évidemment beaucoup de controverses sur le plan d'abord scientifique. Et puis, on a réalisé également que le glyphosate, ou du moins que Monsanto, donc qui produisait le glyphosate, avait manœuvré en mentant à plusieurs reprises. Il y a eu une fuite de leurs documents internes qui a eu lieu à peu près au début de l'année 2017, qui a conduit la justice américaine à les condamner à rendre public l'ensemble de leur documentation interne. Donc on parle ici quand même de dizaines de millions de papiers internes qui ont été révélés, avec des notes manuscrites, des mails, tout un tas de documents, des contrats aussi, et des journalistes d'investigation, des chercheurs se sont intéressés en profondeur à ce genre de documents pour réaliser finalement que Monsanto était au courant de la nocivité de son produit depuis des années. Notamment, il ressort de ces papiers que l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, avait depuis 1984 le souhait de reclassifier le produit comme nocif. Et puis, sous les pressions de Monsanto, avait par deux fois, en 1984 et en 1991, considéré le produit comme inoffensif. Et puis, on a aussi cette fameuse étude interne qui avait été menée, commandée par Monsanto en 1999, qui émettait de sérieux doutes sur le caractère potentiellement cancérogène du glyphosate. Et sous les inquiétudes, Monsanto avait préféré finalement enterrer cette étude. Donc on voit qu'ils étaient au courant depuis le début. Et ce que révèlent ces documents internes aussi, c'est le panel stratégique qui a été mis en place pour influencer les régulateurs du monde entier. On retrouve dans un certain nombre de cas le même panel stratégique qui avait été mis en place par les industriels du tabac quelques décennies auparavant, avec cette recherche obstruction qui vise à entraver la progression d'un savoir inconfortable en remettant en cause alors soit la méthodologie des études dérangeantes, soit la pertinence des résultats obtenus, ou encore même la réputation et l'intégrité du scientifique auteur de l'étude. Mais ces documents internes révèlent autre chose aussi. Ils révèlent du ghostwriting, qui est une fraude scientifique qui consiste à faire écrire par un agent interne une étude et à la faire signer par un scientifique de renom sous le couvert ensuite d'une rétribution, et l'objectif étant que le document soit ensuite placé sous l'égide de l'indépendance et puisse ensuite être donné à des agences régulatrices dans le but d'évaluer favorablement le produit. Donc on voit qu'il y a tout un processus qui a été mis en place pour chercher à ralentir l'action des pouvoirs publics, la prise de décision concernant ce produit. Et tout le problème est là, c'est que depuis 2020, les agences européennes, donc l'EFSA et l'ECA, tout comme l'agence américaine, a renouvelé des autorisations ou du moins rendu des évaluations favorables de nouveau aux produits, ce qui pose de sérieuses questions.
Voilà, on peut supposer aussi que les industriels ont pu approcher justement ces agences de régulation, certains politiques, pour les inciter à ne pas légiférer, en fait, à ne pas interdire le produit, ou alors de voir aussi les bailleurs, je pense, des agences de santé, ou en tout cas des laboratoires qui font de la recherche sur leurs substances, pour qu'ils perdent leur financement.
Alors, qu'il y ait eu des conflits d'intérêts chez un certain nombre d'experts au sein de ces agences, ça a été démontré, ça a été illustré par le biais des Monsanto Papers, mais le problème va bien au-delà. Il met en lumière un problème systémique concernant l'évaluation du risque. Notre modèle européen, tout comme le modèle américain, repose sur la même idée. C'est aux pollueurs, donc du moins aux producteurs, aux fabricants, de prouver l'innocuité, donc l'absence de nocivité de son produit. Il doit donc réaliser des études en interne, monter un dossier de demande d'homologation ou de réhomologation de son produit, et l'agence qui est chargée de l'expertise la réalise en fonction du dossier qui lui est présenté. Donc on voit que ça pose de sérieux problèmes concernant le matériau même qui est utilisé pour réaliser ces évaluations, et ça explique également cette différence de traitement qu'a pu en avoir le Centre international de recherche contre le cancer, tout simplement parce que ce dernier n'a fonctionné que par le biais d'une littérature scientifique indépendante publiée dans la littérature scientifique, quand les agences européennes et américaines n'ont travaillé qu'avec des études réalisées par la firme en interne et soumise du coup à la confidentialité du fait du secret des affaires. Ce qui a renforcé encore plus cette controverse, c'est le fait que l'INSERM lui-même en 2025 soit allé dans le sens du Centre international de recherche sur le cancer en partant de la même base de matériaux, à savoir des études indépendantes publiées dans la littérature scientifique.
Moralité, il ne faut pas faire confiance aux industriels.
Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas leur faire confiance. En tout cas, il ne faut pas être excessif dans la confiance qu'on leur accorde, parce qu'au vu des intérêts économiques qui sont en présence, on se doute que quand quelqu'un n'a pas intérêt à ce qu'on découvre une problématique liée à son produit, c'est sans doute la personne qui est la moins susceptible de les révéler.
Donc là, on a tout le panel des lanceurs d'alerte aussi qui peuvent arriver dans d'autres affaires. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette affaire-là ou peut-être un autre exemple?
Alors, le glyphosate, c'est évidemment la partie émergée de l'iceberg. On a vu moult scandales sanitaires qui a trouvé son origine dans des collusions entre acteurs privés et acteurs publics, agences régulatrices. On l'a eu avec évidemment l'affaire du Mediator qui est directement liée à ce genre d'agissement d'un labo pharmaceutique, les laboratoires Servier qui, dans le but de maintenir un produit sur le marché, a cherché par de multiples moyens à ralentir l'action des pouvoirs publics, mais ça a été le cas évidemment de l'amiante qui a entraîné plus de 20 ans de perdus entre les premières alertes et puis la prise en compte par les pouvoirs publics de ces difficultés. Ça a été le cas aussi de la chlordécone, ça a été le cas du bisphénol A dont on parlait tout à l'heure. Donc en réalité, on a beaucoup de produits avec les mêmes enjeux derrière, à savoir des enjeux économiques qui prennent le pas sur l'enjeu sanitaire et la sécurité de la santé de la population nationale. Donc oui, c'est des sujets qui sont connus, et alors qu'on aurait pu espérer un avant et un après glyphosate qui a mis quand même en lumière et qui a révélé à l'ensemble de la population comment se passaient les évaluations sur les évaluations concernant les substances à risque, en réalité, il semble qu'il ne soit pas du tout dans les intentions politiques pour l'heure de changer ce système-là.
Et alors finalement, à votre avis, Simon Hutin, comment les journalistes pourraient travailler intelligemment avec les chercheurs et les juristes ?
C'est tout un débat en droit, qu'est-ce qui touche au droit et qu'est-ce qui doit toucher finalement à la matière juridique. Pour beaucoup, le droit devrait se contenter d'étudier la législation telle qu'elle est. Pour d'autres, il faudrait aller plus loin, et moi je fais partie de cette catégorie de jeunes chercheurs, on va dire, qui se dit que tout phénomène social qui vise à influencer l'élaboration de la norme doit être aussi appréhendé par les juristes. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec des matériaux issus du journalisme d'investigation, notamment les travaux de Stéphane Aurel ou de Stéphane Foucard qui ont été récompensés d'ailleurs par un prix européen de journalisme pour leur papier sur les Monsanto Papers, mais aussi avec des sociologues qui travaillent beaucoup sur ces questions, avec des historiens des sciences qui eux aussi, notamment Robert Proctor, qui est un chercheur américain qui a réalisé un ouvrage qui s'appelle Golden Holocaust, qui est sans doute le plus fouillé en matière de lobbying au sein de l'industrie du tabac. Alors, je ne sais pas comment les juristes peuvent mieux travailler avec ces personnes. Ce qui est sûr, c'est que la santé environnementale nous pousse à l'interdisciplinarité et à plus rechercher à travailler avec eux, parce qu'ils sont détenteurs de certains savoirs, de certaines compétences qui donnent lieu ensuite à une vraie réflexion sur l'élaboration de la norme et sur la façon dont il conviendrait de repenser notre système d'évaluation et de gestion des risques.
Même de repenser certains métiers ?
Sans doute, quand on pense à une approche systémique, il y a nécessairement aussi un impact sur à l'échelle individuelle.
Merci Simon Hutin. Je rappelle que vous êtes doctorant au laboratoire IRGI, que vous interviendrez donc dans le cadre de l'événement Détour de Sciences, vous proposerez une conférence sur les risques sanitaires et environnementaux de leur évaluation. Alors gestion, et alors cette émission touche bientôt à sa fin, donc je redonne la parole à Alice Nuet, donc responsable du pôle SAPS. Voilà, peut-être avez-vous envie, Alice, de nous rappeler quelques éléments sur le pôle SAPS et sur cet événement.
Oui, merci. Donc, pour rappel, précisément la soirée, 19h au CGR le vendredi 25 avril, qui sera ouverte à tous les publics, donc sans inscription et de manière complètement gratuite. Vous pouvez venir assister à cette conférence débat du professeur Christine Rousiou, donc de l'hôpital Necker et de l'Université Paris-Cité, qui est donc virologue, membre de l'Académie de médecine et de pharmacie, qui a participé, donc, je le disais, à la recherche, au groupe de recherche initiale de la découverte du virus HIV, et qui viendra parler, 5 ans après le début de la pandémie, des hypothèses sur l'origine de la Covid-19, et donc des hypothèses d'origine naturelle, de fuite de laboratoire, mais de manière plus globale, des manipulations parfois dangereuses de virus. Donc cette conférence est encore une fois ouverte à toutes et tous, donc n'hésitez pas à venir le 25 avril. Voilà.
Eh bien, merci à vous deux, chers invités. On va se quitter en musique, et c'est à nouveau un choix de Simon Hutin. Que va-t-on écouter ?
Alors j'ai choisi la chanson d'un artiste canadien, Neil Young, qui a été notamment fiché dans les Monsanto Papers comme personnalité qui s'est opposée farouchement à l'activité de lobbying qu'ils ont pu réaliser. Donc voilà, c'est le dernier petit clin d'œil, c'est la chanson Monsanto Papers. Monsanto, pardon, Years.
Eh bien, on écoute ça dans la Méridienne. À nouveau, merci à mes invités. Je rappelle que cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et que vous pourrez l'écouter à volonté en podcast sur notre site.